Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage! Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Se mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Ce soir, on a décidé de vous lire un très beau texte écrit en hommage à Nino, Daniel Merlini, correspondant de L'Envolée quand il était à l'intérieur et qui, après sa sortie de Poissy, dès qu'il avait pu s'affranchir de son contrôle judiciaire, était venu nous voir pour témoigner à la radio. Deux semaines plus tard à peine, Nino était mort brutalement. L'équipe parisienne de L'Envolée avait tenu à l'époque à lui dédier une émission spéciale et des pages du numéro suivant. Les quelques témoignages qui étaient recueillis étaient précédés de ce texte qui résonne très très fort aujourd'hui alors que Olive a pris son hélico il y a deux semaines.
Il y a des moments où l'on se demande pourquoi on continue, pourquoi on passe tous nos vendredis soirs autour d'un micro, pourquoi on fait un journal. Une partie de la réponse, c'est l'envie de se battre contre toutes les prisons, tous les enfermements, contre ce monde et tout ce qui va avec. L'autre partie, ce sont les relations qu'on tisse avec certains d'entre vous, hommes et femmes, qui êtes incarcérés. Évidemment, ça nous tient. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que Nino faisait vraiment partie de ces personnes avec qui on sent un échange, avec qui on a une relation particulière. Peut-être est-ce aussi une façon de rompre avec l'isolement, avec le vôtre, mais aussi le nôtre. Bien sûr, dehors, la situation est incomparable. Il n'y a pas de mur. Mais à l'extérieur, on souffre aussi de l'individualisation de tous les rapports. Depuis qu'on s'était vu en novembre 2006 au procès de l'attaque du fourgon de la porte de Gentilly, Nino, qui était dans le box, n'a eu de cesse d'écrire, de téléphoner, dès qu'il en avait l'occasion, d'envoyer régulièrement des mots, de prendre des nouvelles et de donner des siennes. Que ce soit depuis la prison de la Santé ou depuis la centrale de Poissy où il a fini de purger sa peine. Cette relation s'est prolongée après sa sortie. Il était très rare qu'il se passe une semaine ou deux sans qu'il nous appelle, pour dire comment il allait, pour donner ses saluts aux poteaux, à tous ses copains qui étaient restés à l'intérieur, et qu'évidemment, il n'oubliait pas. C'était quelqu'un dont l'intégrité et l'honnêteté étaient immédiatement perceptibles. Quelqu'un pour qui la seule mesure de la dangerosité était la fraternité ou l'amitié. C'était ça son côté dangereux à lui. Et peut-être que c'est ça qui a fait peur à d'autres, de quelque côté qu'il se trouve. En tout cas, une chose est sûre, tu vas nous manquer, Ninou.
Bonsoir à tous et à toutes. On est le lundi 13 avril, il est 14h30. C'est l'envolée, comme tous les jours de la semaine, en Ile-de-France, sur fréquence Paris Pluriel 106.3 et sur plein d'autres ondes, partout en France. Vous venez d'écouter un texte en hommage à Ninou. Ce soir, on diffuse des témoignages. Le premier est un prisonnier de Wassel. Wassel est une prison pour étrangers, un centre de rétention, où il y a eu de nombreux malades ces dernières semaines. Le 25 mars dernier, les prisonniers d'Oissel écrivaient un communiqué demandant la libération de tous les prisonniers, ainsi que des masques et du gel. Depuis, rien n'a changé. Et dimanche, ils se sont mis en grève de la faim, alors que des prisonniers du Ménil-Amelot y avaient été transférés à la suite de la révolte que l'on évoquait hier. Ensuite, vous entendrez un témoignage d'un prisonnier en maison d'arrêt, qui raconte la pression des surveillants et l'absence de mesures sanitaires à l'intérieur des murs.
Ben, nous, on est arrivé hier soir, seulement, nous, on était en Ménil-Amelot, si vous connaissez bien. Voilà. Bon, ici, pour le moment, moi, je connais pas grand chose. Il faut que j'appelle quelqu'un qui prend le compte rendu à partir d'ici, quoi. Bon, quand même, on est venu, on a trouvé aussi, ils sont en grade défunt. Ben, nous aussi, on continue avec eux.
Normal.
Bon, je vous appelle quelqu'un, il va vous faire un compte rendu, ce qui s'est passé. Sinon, nous, Ménil-Amelot, on avait commencé ça. Par coup, de ça, on nous a transféré ici.
Et ça va, le transfert, ça n'a pas été trop violent?
Oui, ça a été très très violent parce que nous on a réclamé notre droit à Ménil-Amelot, ils ont refusé catégoriquement parce que là les toilettes les douches ils sont bouchées, complètement bouchées. Et puis on n'a pas les gels hydro parce que c'est ici, quand je suis venu ici, j'ai vu les gels quand même, les gels hydro, on n'avait pas ça à Ménil-Amelot, on a réclamé plusieurs fois, ils refusent. Et puis ils ont mis les gens plus de 50 et quelques personnes, et ce qui n'est pas normal en ce moment. Et ce qui révoltait tout le monde là-bas, c'est un rapport à un SDF qui est rentré. Il a fait une semaine, il est parti, il avait la fièvre de 39 degrés, et puis directement, ils ont niqué, je sais pas, ils ont détecté quelque chose directement, ils l'ont fait sortir. Pour ne pas qu'il les fasse ce qu'il a, ils l'ont fait sortir directement. Et ça, ça a révolté la couleur de tout le monde, on a décidé maintenant de faire une grève de faim et de faire la grève. Et puis nous, on a grévé deux jours, on était dehors, dans la cour, personne n'est rentré dans la cellule, tout le monde était dehors dans la cour. Et puis le lendemain, l'année, le directeur est venu, il a parlé avec nous, ils vont trouver la solution. Le lendemain, ils ont appelé trois patrouilles de CRS qui sont venus nous encercler maintenant. Ils ont bastonné les gens, ils ont lancé les gaz comme lacrymogène. Moi, je suis porte-parole avec d'autres personnes au nombre de 7. Ils nous ont mis les menottes et puis on a mis en isolement. Et puis, vers 14h30, les escortes sont venus. Ils ont mis les masques sous la bouche de certaines personnes. Ils ont mis les cordes, ils ont attaché comme des chiens pour nous faire entrer dans la voiture. Donc, on est arrivé ici maintenant, et puis, c'est comme ça. Et puis, les autres sont restés dans la, ils ont informé les autres dans la cellule là-bas. On a appelé les autres, ils disent qu'ils sont là-bas.
Ok. On a eu des nouvelles aussi des gars là qui ont été enfermés à Lille.
Ouais. D'accord. Parce que ici, nous, là-bas, on était suivis par la CIMAD aussi. C'est la CIMAD qui, et puis, il y a d'autres.
Ouais.
Ici, c'est français d'Asie, ils m'ont dit. Voilà.
C'est ça. Ok. T'essaies de me passer un gars qui est là depuis plus longtemps?
Bonjour Alex, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va pas, nous on a fait la grève, hein. La grève dit ça.
Yes. Donc toi t'es prisonnier à Wassel?
Ouais, à Wassel, ouais.
Là vous êtes en grève de la faim depuis quand?
Depuis hier soir.
Ok, et vous êtes mis en grève de la faim pourquoi?
Bah, pour qu'ils nous libèrent.
Ok, et vous êtes combien en grève de la faim?
On est tous en grève de la faim, tous, on est à 11 ou 12, 13 personnes. 16 personnes.
Ah, avec les 3 arrivés de Ménil, ça fait 16.
Ouais, ça fait 16, ouais. Hmm?
Les flics, ils ont réagi comment?
Bah, ils ont dit, vous mangez pas, ils ont rien dit, hein. Ils ont mal compris, mais c'est pas...
Ok, ils ont pas été violents?
Non.
Et du coup, vous avez pu parler au commandant ou à quelqu'un, là, pour exiger votre libération?
Non, on n'a pas parlé avec le chef. Pour l'instant, il n'y a pas de chef, non. On n'a pas parlé ce matin, ils ont ouvert le patio comme par hasard. Ils ont dit c'est lui qui veut sortir au patio. Ben, dans 10 minutes, ils ont fermé.
Le patio, c'est la promenade?
Ouais, c'est la promenade, la grande promenade, quoi.
Ouais, ça, parce qu'à Bruxelles, il y a une petite promenade et une grande promenade, et la grande promenade, elle est fermée, en fait, généralement.
Ils l'ont ouvert aujourd'hui, okay. Ce matin.
Ouais, pour vous calmer, les bars.
Ouais.
Là, vous avez décidé de faire quoi? Est-ce que déjà, moi j'ai une question, parce qu'à Bruxelles, il y a plusieurs personnes qui étaient malades. Est-ce que les gens vont mieux?
Ouais, ça va mieux, pour l'instant, ça va mieux.
Ok. Même le gars qui dormait dans la promenade?
Ouais. Non, on va continuer la grève du faim jusqu'au bout, hein, ils ont dit.
Bah salut, tu nous as contacté, toi t'es emprisonné dans une maison d'arrêt en France, et tu voulais nous raconter, donc déjà un peu, savoir un peu comment ça se passe, puis l'arrêt des parloirs dans ta prison.
J'ai commencé par parler pour les parloirs, puis me parler des parloirs, depuis que c'est stoppé, ils ont trouvé une petite solution, c'était... Par exemple, pour le linge. Alors, ils sont passés une fois un lundi pour prendre du linge, mais ils prennent qu'un pantalon, un t-shirt par détenu. Ils sont passés une fois, ils sont jamais revenus. Pour la suite, tout ce qui est détenu arrivant, ils sont pas dans un bâtiment spécial, ils sont pas testés, rien du tout. Ils sont envoyés directement en division, mélangés dans des cellules avec d'autres détenus. En promenade, c'est pareil. L'accès à la cabine, il y a même pas un petit coup de nettoyage, il y a rien. Donc les promenades précédentes, comme les promenades, comme tous les détenus passent dessus, donc ça va très vite. Les douches, c'est exactement pareil. Après, il y a quoi d'autre? C'est les surveillants.
Ouais.
Je comprends pas pourquoi on nous ramène des surveillants, par exemple de la prison de Fresnes à la prison où je me trouve. Faire autant de mutations avec autant de surveillants, c'est un risque. C'est encore plus risqué pour nous.
Ouais, surtout qu'on sait qu'à Fresnes, il y a eu un mort à la prison de Fresnes et il y a eu au moins des médecins et je me souviens plus, je crois qu'il y a aussi des surveillants qui ont été contaminés. Donc
c'est exactement ça. Avant, on nous demandait jamais la carte, par exemple, pour descendre à la promenade. Maintenant, on nous réclame la carte. Alors, il y a deux surveillants qui nous disent de la coucher sur la porte pour pas y toucher. Mais tout le reste nous oblige à descendre la carte en bas, de les poser sur un meuble et vous pouvez la poser. J'ai essayé à toutes les promenades, hein, n'importe où, à l'extrémité du meuble pour pas qu'elle soit contaminée avec les autres cartes. Ils les prennent tout ensemble et les remettent. Donc, je sais pas où est la logique là-dedans.
Ouais, donc là, c'est limite, ils rajoutent du danger au truc.
À ce niveau-là, c'est vraiment volontaire, parce que c'est carrément le chef qui insiste là-dessus.
Alors que ce n'était pas le cas avant, quoi.
C'est ça. Toute l'année, il n'y avait pas eu ça. Vraiment, c'est insisté. J'ai appris que les surveillants, il y a une partie des surveillants qui ont pris des avertissements parce qu'ils avaient... Ils s'étaient proposés d'eux-mêmes dès le début de venir avec des masques et des gants et c'est au-dessus d'eux, on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de porter de masque ni de gants. Ils ont donné l'ordre aussi aux oxy de pas donner leurs gants ni, au début il n'y avait pas de masque, mais en tout cas de pas donner leurs gants aux autres détenus, alors qu'avant les boîtes elles étaient posées, on pouvait se servir comme on voulait. Donc ça, je sais pas si c'est des stocks qu'ils ont pas ou pour l'instant ils en ont tout le temps. Il y a même pas une semaine, une semaine et demie. J'avais fait une pétition pour que les oxy nettoient plus la douche, vu que y a plein de lieux, tout ça, qui y vont aux premières heures par peur de croiser certains détenus. Mm-hmm. Cette feuille, le chef me l'a pris en menaçant de m'envoyer directement au mitard si je faisais ça.
Okay.
Donc j'ai fait une feuille avant de la présenter, la feuille, j'avais quand même pris en photo, j'ai envoyé mon avocat qui l'a présenté devant ma DML que j'avais voulu faire et on m'a reproché d'avoir fait sortir ce courrier d'une façon illégale. Vu qu'il n'y avait pas de parloir.
Bon, en même temps, c'est avec ton avocat, tu as le droit d'avoir des conversations avec ton avocat, quoi.
C'est ça, mais apparemment, chaque prison fait son petit système à lui, et vu qu'ils voient très bien qu'on est confiné, j'ai bien envie de le préciser. Quand ils ont dit qu'ils nous donnaient de l'argent pour les cabines téléphoniques, le jour même, presque tous les coups, ils ont sauté pendant plusieurs jours. Donc, je n'explique pas la panique de tous les détenus, ceux qui n'avaient pas de téléphone, je veux dire, surtout.
Donc, pendant plusieurs jours après qu'ils aient fait l'annonce, tu pouvais plus appeler personne, quoi.
C'est ça, ils ont donné des cartes à tout le monde, mais ils ont coupé les cabines. Donc en gros, personne pouvait joindre sa famille pendant facile deux jours. Ouais. Je me suis rendu compte que chaque personne qui allait se plaindre, et ils attendaient qu'elle pète les plombs pour faire genre que c'était le comptable qui avait merdé et la cabine revenait en fait, mais cas par cas. Et quand ça a commencé à péter les plombs, généralement, d'un seul coup, c'est revenu, soi-disant, ça venait de l'extérieur. Mais tout ce qui est hygiène, on est obligé de payer nous-mêmes déjà. Donc en gros, si on veut être propre dans notre cellule, avec la situation qu'il y a, normalement, on devrait avoir du déblocage de savonnette, de gel douche, de javel, tout ça. Donc ça, on est obligé de le payer nous-mêmes.
Il est fil quand même en cantine et tout?
Il y a quelques manques. Il y a plein de trucs. On nous dit que ça n'a pas été livré, mais après, on ne sait pas trop si c'est une pénurie ou on ne sait pas trop d'ici. Ils font beaucoup de grosses fouilles abusives, là, par contre. Ce serait bien de prévenir tous les détenus de France, parce qu'ici, ils s'y mettent sérieusement. En fait, vu qu'ils vont donner des grâces aux gens, je pense qu'ils vont essayer de les reprendre avant, en justifiant ça. Donc, je pense que ça, il va quand même y avoir pas mal de fouilles prochainement.
Ouais, là, ce que tu me disais, c'est que l'ambiance chez toi, elle avait un peu changé.
Elle a changé radicalement. Je ne sais pas s'ils étaient comme ça avant, mais il y a un laisser-aller de paroles racistes, de manque de respect, de limite de menaces carrément. Moi, il y en a un qui m'a fait une grosse fouille, il m'a pété la cafetière. Bon, c'est rien, c'est du matériel de merde. Hein. Dehors, ça, c'est la base. Hein. Tu en acheter une autre, mais ici, c'est un passe-temps, on va dire, comme la console. Il me bousille tout dans la cellule, il me renverse tout, il me retourne le lit. Sur la télé, il y a un gros crachat. Donc, je sais pas s'il a voulu nous refourguer le Covid ou s'il a voulu nous faire comprendre d'aller se faire foutre ou je sais pas. Quand on a signalé ça à travers la porte, il nous a dit de fermer nos gueules ou il allait nous défoncer ou nous piquer à l'UXA. 5 minutes après, je sais pas trop ce qui s'est passé dans la cellule à côté. Et, bon, c'est un mec super gentil qui sort pas, rien du tout. Il a des petits problèmes de santé, tout ça. Il a carrément été jusqu'à lui l'insulter de fils de pute, tout ça, tout en sachant qu'il savait que le matin même, il avait perdu sa mère.
Mais non.
Ouais. On sent qu'il y a vraiment un lâcher de mentalité qui devait avoir disparu depuis un moment normalement, quoi. Pour pas utiliser le mot racisme ou je sais pas s'il y a un racisme envers les détenus, envers les étrangers ou envers je sais pas. Il y a une barrière qui s'est faite. Il y avait déjà un grillage, mais là c'est un mur.
Je vais rebondir un peu là sur ce que tu dis. C'est vrai que, enfin, nous, les retours qu'on avait eu dans d'autres tôles, c'était un peu plutôt l'inverse, qu'il y avait que les matons, ils faisaient plutôt profil bas, éviter au maximum les contacts avec les prisonniers. Et donc c'est important ce que tu décris, parce que nous, on avait plutôt des retours différents. Bah, après, on n'est pas en contact avec toutes les tôles de
prison
et tout, quoi. Mais enfin voilà. Et en fait, c'est ça. C'est vu qu'il n'y a plus personne qui rentre et qui sort dans les tôles, eux, ils prennent grave la confiance, quoi.
C'est ça. Après, je vais pas généraliser. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Mais eux-mêmes, ça se voit qu'ils se sentent gênés de vouloir faire les mecs bien, quoi.
Ouais. Ouais, puis il y a une atmosphère générale, quand même, qui doit être... déjà.
C'est ça. De toute façon, dans tous les cas, ils peuvent pas éviter le truc. Hein. Entre la porte et la grille derrière, dans les coursives, parce que c'est des cercles, cercle ou rectangle, il n'y a pas plus d'un mètre de distance. Donc, du fait qu'il ouvre la porte, ça fait à peine la taille de la porte. Donc, il se retrouve et sa clé, elle est toujours attachée à la ceinture. Donc, dans tous les cas, la clé, quand il ouvre la porte, il ne peut pas la retirer tant qu'il n'a pas refermé. Donc, dans tous les cas, il sera toujours en contact avec la porte. Il n'éviterait pas.
C'était pour savoir si les matons, ils avaient des masques là maintenant ou pas?
Là, ils ont des masques, ouais.
Ok.
Là, ça fait à peu près une semaine. Ils ont des masques, mais... on croirait que c'est des lunettes de soleil. Ils le mettent sur le front, l'autre sur le cou.
Ah ouais, ils s'en servent même pas pour...
Je sais même pas si... je n'ai pas envie de rentrer dans la vulgarité, mais je sais même pas si ils sont aussi propres que ça eux-mêmes, en fait.
Qu'en plus, ces masques-là, l'un des premiers effets, c'est pour les protéger eux. Enfin, ça dépend des types de masques, mais c'est surtout pour protéger les autres, en fait. Donc, c'est pour vous protéger vous, quoi. Quand ils le foutent sur le front, c'est les prisonniers qui mettent en danger, en fait, en faisant ça.
C'est ça, c'est ça.
Et par rapport aux annonces de Belloubet, donc la ministre des tribunaux et des prisons, est-ce que ça a changé un peu? T'as vu des libérations?
J'ai vu quelques libérations, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans ce sujet-là, parce qu'après on va penser que les détenus pensent comme ça ou quoi, mais j'en ai vu à peu près une dizaine, mais sur la dizaine, il y en avait 8 ou 9, ils étaient tous français. Après ça, c'est rien, les étrangers ils sont restés là, apparemment mauvais comportement. Malgré qu'il y en a plein qui sortent même pas, ils font leur sport, ils restent tranquilles.
Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en plus, il y a certains étrangers qui sont sortis. Après, derrière, on les a directement foutus en CRA pour directement les renvoyer dans leur pays. Donc, en fait, tu continues à les enfermer, mais ailleurs, quoi.
C'est ça, c'est exactement ce que j'ai entendu ici aussi.
Généralement, c'est des petites peines. Enfin, les gens qui sont
sortis, moi.
Tu me disais.
Moins d'un mois.
Ouais, c'est ça.
Moins d'un mois. Oui, voilà. Et après, honnêtement, c'est pas un vidage de prison qu'elle a fait. C'est juste mettre une barrière devant la prison et ralentir le flux, c'est tout. C'est juste ça, le chiffre qu'elle nous donnait encore, c'est pas les bons chiffres.
Mm-hmm.
On a à peu près tous branchés en France, on discute, tout ça. On se rend compte qu'en fait, on a à peu près pour des cons, en fait. On est juste des statues rangées dans un meuble en attendant de trouver une solution ou la poser, quoi.
C'est horrible, parce que, enfin, ils sont en train de foutre des gens en danger, quoi.
Bah, je vais pas te donner l'exemple de tout le monde, je vais te donner le mien. Moi, j'ai eu une interdiction de parloir pendant presque 17 mois. Et quand j'ai eu l'autorisation de pouvoir voir mes enfants, mes frères, le juge m'a refait un truc bizarre qu'il fallait attendre, genre, par rapport au jugement. Et le jour où on m'a donné l'autorisation, bah, il y a eu le Covid-19. Donc, j'ai voulu faire une DML pour entrer voir mes enfants, mes parents, tout ça, avant qu'il se passe quelque chose. Dieu nous en préserve tous. Mais ce que je veux dire, c'est que on nous a fait comprendre clairement qu'en gros, on est sous-humains. On n'est plus des humains une fois dedans. C'est, je sais pas comment dire ça, mais on te le fait comprendre clairement que c'est un ressenti qu'on peut pas décrire. Je sais pas comment dire ça. Déjà du fait de dire qu'on renouvelle automatiquement les mandats de dépôt, parce que je suis en mandat de dépôt. De 3 à 6 mois. La suite, ça sera quoi? C'est de nous dire de rester en prison le temps encouru de la peine, le temps de trouver une solution, je sais pas. Donc tout passe par la tête. Donc si des gens dehors suicident pour du travail, c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir une grande dépression en prison. Il y a beaucoup de gens faibles, tu comprends. Et il y a un moment donné où on se demande pas si c'est eux qui se sont pendus ou des surveillants limite qui les ont pendus. Parce que là, tout le monde est perdu, que ce soit les surveillants, on a un peu tous perdu. Les juges, ils ne nous écoutent pas. Les procureurs, eux, c'est vraiment, ils sont contre nous. C'est même pas, ils sont perdus, ils sont vraiment contre nous. Là, ce qu'on aurait voulu aussi savoir, c'est la suite. La suite pour dans l'année, si les parloirs allaient revenir, s'ils pouvaient trouver une solution, par exemple une personne par une personne, ou au moins comme ils ont fait dans les centres commerciaux, mettre des petits, des vaporisateurs bizarres là, comme ils ont mis. Au moins, même si c'est pas pour les personnes, au moins pour nos affaires qu'on puisse les sortir rentrer quoi.
Non, puis il y a des solutions en vrai. Enfin, je sais que dans différentes tôles, enfin pour les avocats, tu vois, de mettre une vitre de plexiglas. Enfin voilà, alors ça fait des parloirs hygiaphones qui avaient des choses à faire en fait pour conserver les parloirs tout en évitant dans 2 mètres carrés de se contaminer.
C'est ça. Quoi.
Nous, ce qu'on dit, c'est que les prisonniers sont considérés comme étant des sous-hommes.
Bah, c'est exactement ça. De toute façon, en ce moment, si vous faites une pétition, si vous rassemblez un peu trop, si vous demandez, comme moi, j'ai fait 4-5 demandes au chef, des petits trucs banals. Hein. Il m'a répondu à tout, sauf j'ai demandé à ce qu'il puisse contacter la SPIP pour avoir le nouveau numéro de ma famille, pour pouvoir les contacter à la CAI. Sur toutes ces choses-là, ils ne vous répondent pas. Par contre, vous essayez, pour revenir à ce que je disais, une pétition ou de discuter entre détenus, tout ça, bah, ils vous trappent, ils vous divisent en fait. Ils vous changent de bâtiment, ils vous envoient au mitard. Il y a un mec qui s'appelait Joe, il a demandé 3-4 fois juste pour que les douches soient nettoyées, qu'il puisse laver proprement. C'est un peu normal avec ce qui se passe. Pauvre, il a fini au mitard, on ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Il a fini ensuite dans une autre division, mais plus de nouvelles. Quoi.
C'est vraiment divisé pour mieux régner et puis grosse rétrécition. Quoi.
C'est ça, vraiment très très grosse. De toute façon, nous, on essaye aussi de ne pas trop en faire trop parce qu'on n'a pas envie, on peut être balèze comme on veut, on peut se promener avec un céramique, on peut ce qu'on veut. C'est pas dur de nous maîtriser, de nous mettre un coup de piqûre pendant un mois, on est comme des légumes, nous, nos familles ne vont pas nous reconnaître. On se préserve de ça, tu comprends. Et ça, c'est la menace qui va à tout bout de champ, en rien. Donc c'est soit on fait un grand n'importe quoi, c'est nous les fautifs, ou soit on ferme nos gueules et on se rabaisse à des niveaux, même dans les il y a 200 ans, ça n'existait pas.
T'es obligé de fermer ta gueule en fait alors qu'ils sont en train de mettre en danger la vie de...
C'est ça.
Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter un petit truc?
Non, rien. Je veux juste souhaiter grosse force à tous les détenus et surtout à leurs familles, c'est tout.
Vous venez d'entendre un témoignage d'un prisonnier d'une maison d'arrêt en France. Avant de vous quitter, on passe un grand salut aux poteaux qui nous écoutent à l'intérieur, à tous les prisonniers et prisonnières de France ainsi qu'à leurs proches. On se retrouve demain. Force, courage et détermination. Et bien sûr, il n'y a pas d'arrangement.